Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, réaction du porte-parole d'Ensemble pour la République au rapport de la Cour des cassations sur le suicide de l'ancien ministre des Transports, Chérubin Okendé. Maître Hervin Diakessé parle des conclusions scandaleuses et de déni de justice inadmissible. Le même ras-le-bol est exprimé à Kinshasa par Jean-Claude Katende, le président de la ZADO. Au Sud Kivu, plus de 100 000 déplacés vivent en ce moment dans des conditions extrêmement difficiles à Calais. Fuyant les affrontements dans les territoires voisins de Massissi au Nord Kivu, ils occupent actuellement une vingtaine d'écoles et des centres de santé quasiment saturés. Notre invité, c'est le médecin directeur de la clinique Dieu est grand de Béni au Nord Kivu. Docteur Baba Moutouza affirme que beaucoup d'habitants de la ville qui n'ont pas accès à l'eau potable sont finalement obligés de s'approvisionner à partir de puits aménagés qui mieux dans la zone. Madame, Messieurs, bonsoir. Justice pour commencer votre journal. Réaction à Kinshasa du porte-parole d'Ensemble pour la République au rapport du procureur général près la Cour des cassations à propos du suicide de l'ancien ministre des Transports et député national Chérubin Okendé. Maître Hervé Diakessé parle des conclusions scandaleuses et des dénis de justice inadmissibles. Il affirme que tout sera fait pour soutenir la famille du défunt Chérubin Okendé afin d'obtenir justice autrement, il a dit à Jeff Ngoy.
Ces conclusions nous ont scandalisés et nous révoltent. Mais ça nous permet de conclure que la justice congolaise ne veut pas des manifestations de la vérité dans l'affaire Chérubin Okendé. Cette conclusion est un déni de justice parce qu'en concluant au suicide, on clôture l'enquête, il n'y a plus homicide. Et ça, c'est totalement inadmissible. D'abord, même si nous entrons dans la logique du procureur général, il ne nous dit toujours pas quelle est la cause de ces suicides. Est-ce par asphyxie, strangulation, par balle? Il s'était là-dessus. Or, seul le rapport des médecins légistes, donc le rapport d'autopsie, aurait permis de connaître le cause exacte de la mort, l'heure de la mort, ainsi que les circonstances probables de la mort. Ces rapports ont toujours été exigés par la famille et la justice congolaise ne veut pas les mettre à la disposition de la famille.
Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation a indiqué à la presse que tous les rapports des experts nationaux et internationaux et sud-africains et du BCNDH et d'une Belge comme simple observatrice convergent à la même conclusion, c'est-à-dire suicide par balle. Pour sa part, le président de la ZADO fait remarquer que le fait que les autorités judiciaires ayant menacé d'arrestation toute personne qui critiquerait cette décision démontre que ces autorités elles-mêmes sont convaincues que personne ne croit en ce qu'ils disent. Jean-Claude Katende est au micro de Paul Matendo.
La conclusion que les autorités en charge du dossier Okendé ont rendue publique hier est la plus ridicule qui soit. Le fait qu'elles aient menacé toute personne qui critiquerait cette décision d'arrestation démontre suffisamment qu'elles-mêmes sont convaincues que personne ne va croire dans ce qu'ils ont dit. Elles ont oublié que la justice appartient au peuple congolais et que ce dernier a le droit de pouvoir commenter les décisions judiciaires. Nous croyons que le jour où le peuple congolais comprendra que la justice est rendue en son nom, ce jour-là, il osera interdire à certaines autorités judiciaires de se rendre à leur bureau, tout simplement parce que celles-ci démontrent suffisamment qu'elles ne sont pas dignes de la confiance que le peuple congolais leur a faite de pouvoir rendre des justices qui renforcent la paix, l'équité et la justice.
L'actualité, c'est aussi la poursuite au palais du peuple ici à Kinshasa des travaux de la commission spéciale qui avait été mise sur pied pour charger d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quatre sous-commissions thématiques ont été mises sur pied. Le président de la commission spéciale affirme à Radio Kapi que les textes finalisés pourraient être déposés ce week-end au bureau provisoire de la chambre basse du Parlement en prélude à la plénière de la semaine prochaine. Jacques Djoli s'est confié à Michel Kifindangoy.
Nous avons commencé un travail d'abord de maîtrise méthodologique. Nous avons divisé la commission en 4 sous-commissions thématiques. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Demain, nous allons continuer et nous espérons que à la fin de la journée, nous aurons terminé le travail d'audition des sous-commissions et la mise en commun du texte sera faite le samedi. Et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ce week-end pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine.
On enchaîne tout de suite avec le Sud Kivu où la situation humanitaire reste critique dans les territoires de Calais. Plus de 100 000 déplacés vivent dans des conditions extrêmement difficiles à Minova depuis le mois de janvier. Ces déplacés qui avaient fui les affrontements dans les territoires voisins de Massissi au Nord Kivu occupent actuellement une vingtaine d'écoles et des centres de santé qui sont quasiment saturés. C'est ce qui ressort du rapport de la communauté humanitaire publié jeudi à Bukavu. Pour en parler, retrouvons à Bukavu donc Emmanuel Elmejoua Kabedi.
Le rapport de OCHA indique que depuis le 2 février dernier, plus de 108 000 déplacés sont arrivés à Minova dans le territoire de Kalehe en provenance du territoire de Massissi. Ils vivent dans des conditions précaires. Certains sont dans les familles d'accueil, d'autres encore dans des sites spontanés ainsi que dans des écoles et bâtiments publics déjà surchargés. Sur le plan de l'éducation, 23 écoles sur 60 sont actuellement occupées par les déplacés à Minova. Les écoles fonctionnelles sont également surpeuplées avec plus de 150 élèves par classe. En plus, les structures de santé sont saturées, posant des problèmes d'accès aux soins. Les centres de santé de Minova et celui de Bobandano enregistrent chacun plus de 120 consultations par jour des personnes déplacées. Des mesures urgentes de quadrillage, de prévention et de renforcement des conditions d'hygiène s'avèrent nécessaires dans les sites de déplacés et même au sein des communautés locales. Les acteurs humanitaires ont besoin d'un accès sécurisé pour fournir une assistance vitale aux populations affectées. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Non loin de là, au Nord Kivu, la tension est montée d'un cran ce matin à Mavivingite, localité située à une dizaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de 4 civils la veille dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'IF. Les FARDC sont intervenus au plus vite pour rétablir la quiétude. De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO annoncent l'intensification de leur patrouille dans la zone. C'est ce que nous explique Marc Marofimo.
L'attaque de la localité de Mavivingite par des assaillants assimilés aux rebelles des EDF est intervenue jeudi soir aux environs de 21h heure locale. Selon des sources locales, les assaillants ont tué entre 3 et 4 civils et blessé 5 autres. Les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO sont intervenus pour empêcher la poursuite de l'attaque. 2 femmes parmi les civils blessés ont été évacuées par les casques bleus tanzaniens à l'hôpital général de Beni. Ce vendredi matin, une vive tension était observée à Mavivingite où des habitants sont descendus dans la rue pour protester contre cette nouvelle attaque des rebelles des EDF. Ils ont érigé des barricades sur la route nationale numéro 4, empêchant ainsi la circulation entre la ville de Beni et la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. La police et l'armée sont intervenues pour lever les barricades et rétablir l'ordre. Signalons que c'est la deuxième fois en l'intervalle d'une semaine que la localité de Mavivingite est ciblée par une attaque attribuée aux EDF. La société civile locale plaide pour l'intensification des patrouilles de l'armée dans la zone où des mouvements suspects d'hommes armés mais non identifiés sont observés depuis quelques jours. De son côté, la MONUSCO annonce l'intensification de ses patrouilles dans la zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Revenons au Nord Kivu où la peine capitale a été prononcée mercredi après-midi par la cour militaire au terme d'un procès de 7 mois entre le ministère public et un officier supérieur des FARDC. Ce dernier était reconnu coupable de crimes de guerre par exécution extrajudiciaire. Le compte rendu à Goma de Gabriel Wamenya.
L'officier condamné, c'est le colonel Deogracias Paluku, alors commandant second en charge des opérations du 34e régiment basé à Massissi Centre. Il était poursuivi pour l'infraction des crimes de guerre par meurtre. C'est au cours de l'instruction de l'affaire devant les juges que la cour a requalifié la dite infraction et l'a mis en infraction des crimes de guerre par exécution extrajudiciaire conformément à l'article 8 du statut de Rome. En effet, vers la fin de l'année 2021, l'officier mis à perpétuité derrière les barreaux a enterré vivant et ligoté dans une fosse commune des combattants du groupe armé APCLS, Baraka et Ushindi qui se sont rendus aux FRDC dans la localité de Kahongole. Pour raison d'enquête, les corps des victimes ont été exhumés pour y effectuer une autopsie avant d'être mis dignement à nouveau en terre. Rappelons que les audiences de ce procès qui a duré 7 mois ont bénéficié de l'appui de la MONUSCO à travers sa section d'appui à la justice. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. À Kalemi, les agents qui exécutent les travaux de développement de 145 territoires dans la province du Tanganyika réclament 11 mois d'arriéré de salaire. C'est confiant à la presse ce vendredi dans cette ville. Ils accusent l'entreprise Safricas d'avoir mis fin à leur contrat. À Kalemi, la correspondance de Paul Emunanga.
Parmi ces agents, il y a des ingénieurs, des techniciens, des logisticiens, des ouvriers et des fournisseurs de matériaux de construction. Ils disent que depuis le début des travaux, ils n'ont jamais été payés. Ils ont introduit ce vendredi une plainte contre l'entreprise Safricas SAUBC-SARL au parquet général de Kalemi. D'après eux, en manquant à ses engagements, cette entreprise ternit l'image du projet PDL 145 territoires et fragilise la confiance de la population envers les initiatives gouvernementales. Ainsi, ces agents exigent le paiement de leurs prestations. Arcel Katamba, représentant des ingénieurs dans les territoires de Kalemi pour le compte de ses travaux.
Nous exigeons le paiement immédiat de nos prestations par l'entreprise Africas SAUBC-SARL. Nous appelons également les autorités compétentes à se saisir de ce dossier et à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de nos droits et le bon déroulement de ce projet de développement dans la province du Tanganyika.
Radio Okapi n'a pas pu joindre les responsables de l'entreprise Safricas SAUBC-SARL. Signalons que les travaux PDL 145 territoires lancés depuis fin mars dans le Tanganyika sont exécutés sur 8 sites dans le territoire de Kalemi. Kalemi, Paul Emunanga, Radio Okapi.
Promotion de la participation des femmes au sein des institutions publiques locales en RDC. C'est l'un des projets financés par l'ambassade de France en RDC à travers le projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. Madame Guylaine Lumaliza, porteuse de ce projet opérationnel à Kisangani dans la province de la Tchopo, affirme à Radio Okapi que l'objectif est de pousser les femmes à accéder aux postes de responsabilité dans les institutions publiques du pays. Elle a dit hier à Kinshasa, à la fin du projet PISCA, en présence de l'ambassadeur de France en RDC. Elle est au micro de Paul Matendo.
En termes de résultats, notre objectif, c'est que les femmes parviennent à des postes clés du pays, à des postes de prise de décision. Et c'est comme ça que une de nos bénéficiaires, Madame Noëlla Konga, est aujourd'hui conseillère municipale dans la commune de Makissou. La commune de Makissou, c'est la commune comme Gombe à Kinshasa. Et cette dame qui fut bénéficiaire de ce projet est actuellement conseillère municipale dans cette commune. C'est quelque chose que nous avons beaucoup loué. En termes de résultats, jadis, il y avait 2 femmes au niveau de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, nous avons 3 femmes. C'est quelque chose que les femmes ont si intériorisé. En termes de valorisation, ces projets, le projet a pris fin au mois de décembre, mais nous continuons à recevoir les plaintes de la part des victimes et des violences sexuelles. Nous continuons à recevoir des femmes qui expriment leurs besoins.
Économie à présent. Le prix de la viande de bœuf est passé de 12 000 à 18 000 francs congolais sur le marché de Bandunduville. Certains habitants de la ville affirment à Radio Okapi que cette flambée de prix fait suite à la rareté des vivres frais et la suspension du trafic sur la route nationale numéro 7 occasionnée par l'insécurité causée par des miliciens Mobondo. À Bandunduville, Irène Mbomaluzolo.
Passé de 12 000 à 18 000 francs congolais depuis la fin de l'année 2023, le prix d'un kilo de la viande de bœuf n'est toujours pas revu à la baisse sur le marché de la ville de Bandundu, malgré l'alimentation de cette ville en produits surgelés. Certains habitants croisaient ce vendredi au marché central situé dans la commune de Dissassi, c'est la Mande.
C'est toujours à 18 000, nous ne comprenons pas c'est quoi au juste.
C'est nous qui sortons l'argent et le porte-monnaie souffre pas mal. La raison était que la route était fermée, il y avait l'insécurité. Mais maintenant, la solution est trouvée. L'impiodi arrive. Mais comme il y a eu hausse de prix, on ne sait pas rabattre.
Ricky Ebengo, un des bouchers de Bandundu, accuse quant à lui d'autres facteurs d'être à la base de cette hausse des prix, dont la rareté des vaches dans les liens d'approvisionnement.
La hausse des prix est due à... Les bêtes sont devenues quasiment rares. La plupart des fermes ne sont plus opérationnelles dans le sens que chacune des fermes a été frappée par l'épidémie. On a perdu beaucoup de bêtes. Quand ça s'achetait à 1 500 000, on vendait les kilos à 12 000 francs congolais. Mais présentement, la intro revient à 2 500 000. Ce qui fait qu'un kilo revienne à 18 000 francs congolais.
Ricky Ebengo invite les autorités compétentes à prendre des dispositions utiles afin d'éradiquer cette pasteurellose qui met par terre l'économie de la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Kenya et Haïti ont signé ce vendredi après-midi un accord pour l'envoi des policiers kenyans dans ce pays qui est gangréné par l'insécurité généralisée dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies, selon un communiqué qui a été signé aujourd'hui par le président kenyan. William Ruto ne précise pas cependant si cet accord est contraire à la décision d'un tribunal kenyan ayant jugé illégal fin janvier dernier l'envoi prévu des policiers.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin directeur de la clinique Dieu est grand de Beni au Nord Kivu. Docteur Baba Mutuza affirme que plusieurs habitants de cette ville n'ont pas accès à l'eau potable. Ils sont obligés de s'approvisionner en eau des puits et d'autres sources aménagées. Il s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Baba Mutuza, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les risques liés à la consommation des eaux des puits et autres sources d'eau aménagées?
Alors, je voudrais commencer par une expression courante. Il est souvent dit que l'eau, c'est la vie. Vous comprenez l'importance de l'eau d'une manière générale. Mais en réalité, si nous devons rentrer sur le plan physiologique, c'est-à-dire la condition du corps humain, nous allons prendre deux exemples simplement. Le corps de nouveau-né, c'est-à-dire celui dont l'âge varie entre 0 et 28 jours, est constitué à plus de 90% d'eau, uniquement d'eau. Pour les adultes, nous sommes constitués à peu près à 60% qu'est de l'eau. Vous voyez à quel point l'eau devient un élément essentiel pour notre vie, pour l'homéostasie intérieure. L'eau intervient dans l'hydratation du corps. L'eau intervient dans la volémie, c'est-à-dire la quantité globale de sang, ça va. L'eau aussi favorise les transports des minéraux, notamment les calcium, les potassium, les sodium. Et c'est grâce à ces éléments-là que le corps ou l'organisme humain arrive à faire face à des agresseurs étrangers, c'est-à-dire externes, et à maintenir son équilibre interne qu'on appelle l'homéostasie.
Est-ce que boire de l'eau contaminée peut avoir des effets négatifs sur la santé? Si oui, quels sont ces effets?
Beaucoup d'effets néfastes. En réalité, nous parlons souvent des maladies hydriques. C'est ça le thème qui est généralement utilisé. La plupart des temps, lorsque vous buvez de l'eau contaminée, les grands risques, c'est les risques d'épidémie. Les grandes maladies que nous pouvons citer ici, nous allons citer les maladies qui sont endémiques chez nous. Parlons de la fièvre typhoïde, par exemple. Nous avons aussi l'amibiase, mais dans sa forme grave, elle entraîne la dysenterie amibienne. Mais vous voyez aujourd'hui, par exemple, un exemple qui est plus frappant. Dans les zones, aujourd'hui, il y a de la guerre, il n'y a pas d'eau potable. Il y a une épidémie de choléra qui est en train de sévir là-bas. Et donc, toutes ces maladies-là, on appelle les maladies périls, les maladies hydriques, viennent du fait, soit l'eau n'est pas bien traitée, soit il est de mauvaise qualité ou carrément contaminé. C'est qui la plupart des cas chez nous. Parce que aujourd'hui, avec l'absence, la pénurie d'eau, disons aussi que même quand l'eau est là, la tuyauterie, l'énergie des eaux, elle est vieillissante. C'est-à-dire que l'eau que nous recevons déjà au robinet n'est pas totalement potable, tout de même. Mais déjà, cette eau-là n'existe pas non plus. Alors, le fait que nous utilisons aujourd'hui l'eau de puits, pour la plupart du temps, c'est l'eau qui est contaminée par ces phénomènes que nous avons aujourd'hui, des fosses septiques. C'est-à-dire, ils s'arrangent pour créer des fosses septiques au même niveau qu'il y a la nappe phréatique et c'est des excréments qui les déchets en réalité contaminent la nappe phréatique et cela entraîne qu'il y ait de l'eau déjà à la source contaminée. Deuxièmement, il y a aussi, j'aimerais dire, et ça c'est un aspect important, l'entretien du puits. On ne fait pas d'entretien de puits. C'est-à-dire la poussière aujourd'hui peut facilement contaminer. Les eaux de puits qui sont généralement acides contaminent et cela est à la base de beaucoup de maladies, c'est-à-dire des diarrhées, peuvent encore être exacerbées si les gens sont des extrémités, les petits-enfants et les vieillards.
Aujourd'hui, la ville de Béni fait face à la pénurie d'eau potable parce que la régie des eaux a beaucoup de problèmes. Comment peut-on utiliser l'eau des puits et des sources aménagées dans différents ménages?
Ça maintenant c'est une très bonne question, parce que dans ces cas-là, ces eaux des puits et les sources aménagées deviennent comme la source principale de production d'eau chez nous. Et donc il faut souligner ici que cette eau-là nous sert des ménages, c'est-à-dire préparer la nourriture, ça nous sert aussi à boire et ça nous sert aussi pour prendre un bain. Alors comment faire? Il y a deux façons de traiter d'eau. Nous pouvons le traiter d'une manière naturelle, sans qu'on puisse y mettre des produits, et dans ces cas il faut bouillir de l'eau. C'est une façon de stériliser l'eau. Deuxièmement, c'est utiliser des désinfectants naturels. Le plus répandu aujourd'hui, ils sont à un prix très abordable, les comprimés d'aquatab. Il y en a, et même le dérivé du chlore. On peut facilement prendre cela. Généralement, on prend un comprimé que nous allons mettre dans 20 litres d'eau. Il faut attendre 2 à 3 heures. Vous pouvez facilement recourir à cette eau-là. La troisième étape, c'est la filtration d'eau.
Quel conseil donnez-vous à la population avant d'utiliser l'eau des puits et des sources aménagées à l'absence de l'eau potable, qu'a aujourd'hui dans plusieurs quartiers de la ville de Béni?
Le tout premier conseil, c'est avant tout un conseil qui ne cadre pas forcément avec la santé, mais qui cadre avec notre écologie. Cela nous pousse tout simplement, nous responsabilise pour dire que ce que nous faisons à la nature a des répercussions directes sur nous. On ne peut pas continuer à déboiser, c'est-à-dire à couper les arbres d'une manière arbitraire. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un premier aspect. Et un deuxième aspect, c'est cet entretien de nos sources d'eau aussi. Il arrive très souvent que dans les quartiers, c'est dans les sources d'eau que nous allons jeter les excréments le matin ou les urines le matin. À ce moment-là, nous ne réalisons pas qu'en polluant ces sources d'eau en amont, ceux qui sont en aval vont facilement en souffrir. Et donc, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, j'aimerais dire, directe. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément maintenant, comme nous avons dit, il faudra bien aménager nos puits et nos sources d'eau. Par exemple, il faut y mettre le chlore bien dosé, généralement. Il faut mettre le puits très loin des fosses septiques. Et pour la régie des eaux, comme c'est un problème chronique, nous espérons que c'est mal l'État, à un moment ou à un autre, il pourra trouver le moyen de venir en aide à la régie des eaux pour que nous puissions avoir de l'eau de qualité.
Docteur Baba Mutuza, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le médecin directeur de la clinique Dieu est grand de Béni au Nord Kivu. Docteur Baba Mutuza a été interrogé à Béni par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Aluzi Tukabambi qui m'a accompagné.